Bonjour à toutes et à tous. Au lendemain du crash d'un avion de la compagnie Ethiopian Airlines, peu après son décollage d'Addis Abeba, de nombreuses questions se posent, notamment sur la fiabilité de l'appareil. Le Boeing 737 MAX 8, déjà impliqué en octobre dernier dans un accident à Jakarta. Correspondance à suivre de notre correspondant aux États-Unis, Grégory Phillips. En Syrie, après une semaine d'évacuation de civils à Baghouz, les forces démocratiques syriennes ont lancé une nouvelle opération contre les djihadistes toujours présents sur place hier soir. Nous écouterons le porte-parole des FDS dans ce journal. C'est notre envoyé spécial qui l'a rencontré. Et puis un nouveau premier ministre palestinien a été nommé hier, Mohamed Shtayyeh. C'est un cadre du Fatah, un proche du président de l'autorité palestinienne. Son portrait par Marine Vlaovic. Y aurait-il un problème de sécurité concernant les Boeing 737 de nouvelle génération? Pour la deuxième fois en quelques mois seulement, un accident s'est produit hier au moment du décollage impliquant un 738 MAX 8. Après Jakarta en octobre dernier, c'est à Addis Abeba en Éthiopie qu'un nouveau crash a eu lieu. C'était hier matin. Aucun survivant parmi les 157 passagers, parmi lesquels figuraient 9 Français. Et au-delà de l'enquête qui commence sur place, beaucoup d'interrogations déjà du côté du constructeur Boeing à Seattle. À Washington, la correspondance de Grégory Phillips.
Évidemment, il est trop tôt pour dire si les deux accidents, celui de la compagnie Lion Air en octobre en mer de Java qui avait provoqué la mort de 189 personnes et celui d'Ethiopian Airlines ont une cause commune, mais les deux catastrophes se ressemblent. Un crash quelques minutes seulement après le décollage. Boeing et l'autorité américaine de sécurité des transports ont donc envoyé sur place des équipes pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. Ce modèle, le 737 MAX, n'est en service que depuis 2 ans. 350 appareils ont déjà été livrés, essentiellement en Chine, mais 5000 ont été commandés. Pékin, d'ailleurs, demande à toutes les compagnies chinoises de clouer ces avions au sol en attendant les résultats de l'enquête. Ces deux accidents mortels sur un nouveau modèle sont évidemment un coup très dur pour le constructeur américain qui, suite au drame d'hier, préfère reporter la présentation de son nouveau gros porteur, le 777X, qui était prévu après-demain à Seattle.
Grégory Phillips. Carlos Ghosn a demandé à assister au prochain conseil d'administration de Nissan prévue demain, actuellement assigné à résidence à Tokyo après plus de 100 jours de détention. Carlos Ghosn est placé sous un contrôle judiciaire strict. Il a notamment interdiction de rencontrer les protagonistes de l'affaire, mais la justice japonaise peut éventuellement l'autoriser à participer à ce conseil d'administration. Une décision est attendue dans la journée. Aux abords de Baghouz, en Syrie, les forces démocratiques syriennes ont lancé hier soir ce qui pourrait finalement être le dernier assaut contre ce qui reste de l'organisation État islamique. L'offensive a débuté en fin de journée par des bombardements d'avions de la coalition internationale. Ils ont visé des entrepôts de munitions utilisés par les djihadistes. Opération lancée après une semaine entière consacrée à l'évacuation des civils présents sur place. C'est ce qu'explique Mustapha Bali, le porte-parole des forces démocratiques syriennes, à notre envoyé spécial Aurélien Colli.
Ces derniers jours, nous avons ralenti notre assaut pour permettre aux civils de quitter l'enclave. Pendant 7 jours, des milliers d'entre eux sont sortis et des centaines de djihadistes se sont rendus. Hier, nos forces n'ont plus vu de civils utilisés comme boucliers en première ligne, donc nous avons décidé de relancer l'assaut. Nos forces spéciales ont pour mission d'essayer de protéger les femmes et les enfants de djihadistes qui seraient encore à l'intérieur. Mais le combat pour éradiquer Daesh à Baghouz est lancé. Soit ils jettent les armes, soit ils mourront.
En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika est rentré au pays hier soir après 2 semaines d'hospitalisation en Suisse, ce qui ne fera probablement pas baisser la tension, alors qu'une grève générale a débuté hier, premier jour de la semaine, à travers tout le pays. Elle touche les commerces, les transports et les entreprises publiques et privées. On attend dans la semaine la décision du Conseil constitutionnel algérien sur la validité de la candidature du président algérien pour un 5e mandat. Dans les territoires palestiniens occupés, Mahmoud Abbas a nommé hier un nouveau Premier ministre qui devra former un nouveau gouvernement à Ramallah. Mohamed Shtayyeh, cadre du Fatah, l'homme est proche du président de l'autorité palestinienne, ce qui risque de creuser encore un peu plus le fossé entre Fatah et Hamas. Les explications de Marine Vlaovic, la correspondante de RFI dans la région.
Ancien conseiller de Mahmoud Abbas, dont il est proche, et membre du comité central du Fatah, la plus haute instance du parti présidentiel, Mohamed Shtayyeh, 61 ans, succède à Rami Hamdallah, qui était à la tête d'un gouvernement considéré comme indépendant. En nommant ainsi un fidèle parmi les fidèles au poste de Premier ministre, le président de l'autorité palestinienne resserre les rangs autour de lui. Mais en choisissant un cadre important du Fatah, Mahmoud Abbas renforce l'emprise de son parti sur les institutions défaillantes de l'autorité palestinienne. Un signal fort qui risque d'aggraver la division avec le Hamas, alors que les nombreuses tentatives de réconciliation entre les factions palestiniennes ont toutes avorté et qui ravive le spectre d'une séparation totale entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. Le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza depuis 2007 a déjà annoncé qu'il ne reconnaissait pas ce gouvernement qualifié de séparatiste, car formé sans consensus national. De quoi éloigner encore la perspective d'hypothétiques élections. En décembre dernier, Mahmoud Abbas a annoncé la dissolution du Parlement palestinien, dominé par le Hamas et inactif depuis 12 ans. Il s'était alors engagé à organiser un scrutin législatif d'ici 6 mois.
Marine Vlahovic. Ce lundi sera une nouvelle journée chômée au Venezuela. Hier, le gouvernement a ordonné l'arrêt des écoles et des administrations du pays, toujours paralysées par une panne d'électricité depuis jeudi. La situation est dramatique, notamment dans les hôpitaux. L'opposant Juan Guaido, président autoproclamé, a demandé au Parlement de décréter l'état d'urgence et a réclamé une nouvelle fois l'entrée de l'aide humanitaire dans le pays. Nous sommes le 11 mars, c'est le triste anniversaire de la catastrophe de Fukushima au Japon il y a 8 ans maintenant. Catastrophe sur laquelle nous allons revenir dans nos prochaines éditions ce matin. Et c'est aussi le 11 mars, la journée européenne de lutte contre le terrorisme. Autre anniversaire, il y a 15 ans, jour pour jour, l'Europe connaissait les pires attentats terroristes de son histoire. Al-Qaïda frappait Madrid et sa gare d'Atocha. Bilan effroyable de 192 morts et de milliers de blessés. Mais en Espagne, les hommages qui seront rendus aujourd'hui aux victimes de ces attentats seront, une fois de plus, rendus en ordre dispersé sur fond de dissension politique. Mathieu de Taillac.
Deux associations de victimes représentent deux tendances de la politique et de la société espagnole et ne parviennent pas à se rassembler, même pour simplement se recueillir en mémoire de leurs morts. En 2004, les attaques terroristes, la mauvaise gestion de cette crise par le gouvernement de José María Aznar et la victoire surprise du socialiste José Luis Rodríguez Zapatero aux élections tenues 4 jours après... Tous ces événements avaient profondément divisé les Espagnols. D'un côté, ceux qui, avec Aznar, refusent de ne voir dans ces attentats qu'une vengeance djihadiste à la participation de l'Espagne à la guerre en Irak. Ils pensent que les séparatistes basques d'Otea y sont eux aussi pour quelque chose. De l'autre côté, ceux qui ont accepté le verdict des juges et refusent les théories conspirationnistes basées sur aucune preuve. 15 ans après, les deux Espagnes, la gauche et la droite, sont encore incapables de se comprendre et de tenir un hommage ensemble.
Mathieu de Taillac à Madrid. La cour d'assises de Bruxelles doit prononcer aujourd'hui la peine de réclusion criminelle qui sera infligée au djihadiste français Mehdi Nemmouche, jugé ces dernières semaines pour l'attentat perpétré en 2014 contre le musée juif de la capitale belge. Mehdi Nemmouche a déjà été reconnu coupable par la cour des 4 assassinats terroristes perpétrés ce jour-là. En France, Bernard Tapie de retour au tribunal en correctionnel à Paris, procès pour escroquerie et détournement de fonds publics après l'arbitrage qui avait été octroyé à l'homme d'affaires 403 millions d'euros en 2008. Il s'agissait de solder son litige avec le Crédit Lyonnais, arbitrage qui a depuis été reconnu frauduleux et qui a été annulé. La protection des lanceurs d'alerte au niveau européen, de quelle manière? Si depuis l'affaire des LuxLeaks, l'idée fait son chemin, les modalités précises sont loin d'être trouvées. Tous les États membres de l'UE ne sont pas d'accord entre eux sur la législation qui pourrait être mise en place. Les dernières discussions autour d'une directive européenne doivent avoir lieu ce lundi à Bruxelles. Discussion entre le Conseil, la Commission et le Parlement, alors que certains pays, dont la France, veulent protéger avant tout le secret des affaires. À Bruxelles, Lakshmilota.
Le lanceur d'alerte doit-il d'abord évoquer ses soupçons de fraude en interne? Les États membres ne sont pas d'accord quant à la réponse à cette question. En lançant le projet de directive, la Commission européenne prévoyait d'abord que les personnes en possession d'une information délicate concernant leur entreprise en parlent en interne, puis auprès d'un prestataire externe, avant une éventuelle médiatisation. Mais fin 2018, cette hiérarchie a été supprimée par le Parlement européen, qui considère que c'est au lanceur d'alerte de juger à qui il doit révéler les activités illicites qu'il soupçonne. En janvier, les États membres ont commencé à participer au débat. Une dizaine d'entre eux sont favorables au projet, l'Irlande, la Belgique ou encore le Royaume-Uni. Mais d'autres, comme la France, la Hongrie et l'Autriche, veulent rendre le signalement en interne obligatoire. Pour la France, il faut défendre d'autres intérêts légitimes comme la sécurité et la défense nationale ou encore le secret des affaires. Paris propose un signalement auprès d'un interlocuteur impartial et tenu à une stricte obligation de confidentialité. Mais la France a perdu un soutien de taille la semaine dernière, celui de l'Allemagne, qui assure désormais vouloir faire preuve de flexibilité.
Lakshmi Lota, la météo en France, un temps encore instable aujourd'hui avec toujours du vent sur les Alpes et la Corse, de la pluie de la Normandie jusqu'en Auvergne-Rhône-Alpes et de la neige sur les Vosges et le Jura, température maximale 18 degrés au sud.